Ouais, ça s'est terminé en 18e manche. Ouais. Une défaite qui va faire mal aux Blue Jays. Victoire de 6-5 des Dodgers de Los Angeles sur une longue balle de Freddie Freeman. Ouais. Les gars, par où commencer, sérieusement?
Ben, puis Freddie Freeman avait été quand même assez tranquille depuis le début. Tu sais, il n'y a pas un post-season comme il a connu l'année passée. Là, ça, son année de MVP et tout
ouais,
ça. Là.
L'année de son grand chelem.
Mais quand c'est le temps, il se lève. Puis écoute, oui, c'est un bon match. Écoute, malheureusement, c'était tard un peu pour nous. Là. Moi, j'ai lâché après 5 ou 6.
Ah, moi, j'ai arrêté en cinquième.
C'est ça. Scherzer l'a lancé bien.
Oui.
Il y a quand même... Mais en même temps, c'était tout un match de baseball. Là. Il y a eu des... comment est-ce que les Blue Jays ont laissé de coureurs sur les buts? C'était un nombre record. C'est épouvantable. Ça n'a pas d'allure. T'sais, on n'est pas... Puis, bad base running. Mais à une couple d'occasions, j'ai trouvé qu'on a mal réagi sur les buts. Là. On a peut-être essayé de forcer la note un petit peu tôt, Anthony. Puis,
mais je regarde là, les gars qui ont laissé des coureurs en position de marquer. Straw, Springer, Kurt, Lucas, 4. Heinemann, 2. Et Clement aussi.
On a laissé un paquet. Là,
l'équipe
paquet
totale avec des coureurs en position de marquer, 2 en 12. Et on a laissé 19 coureurs total sur les sentiers.
19 tout coureurs sur les sentiers.
Ouais. Mais tu sais, tu regardes énorme. Ça, honnêtement, c'est énorme. Mais moi, j'ai hâte de voir.
C'est 18 manches aussi, là.
C'est 18 manches, c'est 2 matchs. Shohei Ohtani, 2 doubles, 2 circuits, 5 buts sur balle, 9 en 9 en termes de se rendre sur les sentiers.
Ça, c'est fort en tabarouette. Sérieux,
c'est
là?
C'est une performance, honnêtement. T'sais, autant c'était hyper spectaculaire et du jamais vu, ces 3 circuits et ces 10 retraits au bâton. Je pense pas qu'on est là hier, mais quand même.
Mais il va plus soir, là.
Il va lancer ce soir.
Moi, là, ce qu'on assiste avec Shohei Ohtani, ça défie l'imaginaire. On verra plus jamais ça. C'est sûr qu'on verra plus jamais un phénomène comme Shohei Ohtani de notre vivant. C'est une licorne, je sais pas comment l'expliquer. Et ce qu'il fait, là, c'est du jamais vu. Et hier, encore une fois, les Blue Jays n'avaient aucune espèce d'idée comment affronter Shohei Ohtani. On s'est posé la question avec Dominguez en 7e si on allait le défier. On a décidé de le défier. Qu'est-ce qui est arrivé? Circuit.
Ouais, mais lancé en plein cœur du match.
Je comprends. Mais quand même, il finit le match avec 2 circuits, 2 doubles, les points produits. Puis après ça, ben, on n'avait aucune idée comment l'affronter. On lui a donné 5 passes gratuites, dont 4 intentionnelles. Il va lancer ce soir, 17 heures après la fin du match. Il va lancer.
Ouais.
On va se fier sur lui pour amener l'équipe à un match de gagner la Série mondiale. C'est un phénomène extraordinaire. On est chanceux de vivre dans la période de Shohei Ohtani. Je ne sais pas pendant combien de temps il va faire les deux positions, lanceur et frappeur, mais présentement, il est capable de combiner les deux et d'exceller dans les deux. C'est pas rien. Là, je veux dire, il y avait d'autres options chez les Dodgers pour faire lancer. La meilleure option, c'est Ohtani. Il lance ce soir. Ouais,
ça va être fascinant parce que c'est un match où est-ce que les deux partants, ça va être important qu'ils te donnent plusieurs manches. Parce que là, ta relève est épuisée. Là. On a utilisé beaucoup de releveurs. Hier, les Jays, 4 manches et un tiers pour Scherzer, qui honnêtement a bien fait. Termine le match avec 3 points mérités, mais il y a un point mérité là-dessus que c'est Flaherty.
Il a donné 2 coups de circuit, échappé 2 lancers. Ohtani, c'est dangereux quand il est lancé à l'intérieur. Il y a à l'intérieur, Ohtani tourne sa balle. On voit ça sur le long de la ligne du premier but. Hernandez aussi, une coupe qui a resté suspendue. Là, pis, elle était loin, pas à peu près.
Quand on vous dit là, que ce qui s'est passé hier, c'est spécial, là, le lanceur Klein qui gagne le match pour les Dodgers hier, il n'avait jamais lancé plus que 2 manches dans un même match dans toute sa carrière dans les majeures. Hier, il a lancé plus de 4 manches pour les Dodgers sans donner de points. Il gagnait le match, lanceur gagnait.
Un seul coup sûr.
Il était sur le point de quitter, lui, après 18 manches. Celui qui se réchauffait pour les Dodgers, c'est Yoshinobu Yamamoto qui avait lancé le match numéro 2, un match complet à Toronto, même pas 48 heures avant. Alors lui, là, avec une journée complète seulement de repos...
T'es prêt à lancer encore?
Il aurait lancé probablement une manche. Donc...
Non, mais tu fais qu'est-ce que tu t'as pas le choix pour aider ton club à gagner. C'est tout ça. Die.
Fait que je disais, Scherzer, Flaherty, Varland, Dominguez, Bassett, Hoffman, Fisher, Lauer. Salutations à Lauer qui est venu lancer 4 manches et 2 tiers. Et finalement, c'est Brendan Little qui, malheureusement, le pauvre Little, qu'on casse du sucre sur son dos depuis le début des séries.
Ouais, avec raison aussi, là.
C'est lui qui donne malheureusement le circuit à Freeman. Puis si on est honnête, il y a eu au moins 3 à 4 claques à la piste d'avertissement dans les manches supplémentaires que Varsho est en mesure de saisir, mais finalement celle de Freeman, elle était trop loin. Plusieurs trucs moi qui m'interpellent dans ce match-là, les erreurs des coureurs.
C'est
on a tenté d'être agressif du côté des Jays. Ça a payé à un certain moment. On a vu Vlad tirer avantage d'un relais qui était hors cible pour venir marquer. Mais on a aussi vu Schneider se faire pincer d'à peu près 6 pieds au membre. Kenner Falefa a tenté d'aller chercher le troisième. Ça n'a pas fonctionné. Je comprends d'être agressif, messieurs. Mais malheureusement, des fois, il faut essayer
je pense que c'était le mot d'ordre hier d'être agressif. Agressif au bâton, agressif ses buts, essayer de forcer quelque chose. T'sais, on s'est lancé souvent sur les premiers lancers. T'sais, on voulait créer quelque chose. Ça n'a pas fonctionné, malheureusement. Ça n'a pas fonctionné. Ça a pris 18 manches pour perdre la game. Là. Quand même un bon match, là, t'sais, puis faut pas se décourager, mais c'est tough.
Mais comment tu te relèves de ça, Gilbert?
Ben écoute, moi je sais pas. J'ai jamais joué. J'ai joué au baseball beaucoup, mais 18 manches.
Non, mais t'as des games de la prolongation que tu as perdu en série. Là.
Ça, là, c'est. Autant c'est positif pour l'équipe qui gagne. Tu sais, comme les Dodgers après la game hier, là, c'était tout feu, tout flamme dans le vestiaire, on est content, on a gagné tout ça, puis l'énergie revient, on dirait que t'as un deuxième, troisième souffle et tout ça. Autant les Blue Jays, t'es down, parce que t'as tout donné, t'as tout laissé sur le terrain, puis t'as zéro. C'est comme si t'avais pas joué le match, t'as perdu le match. C'est un peu comme au hockey, tu perds en prolongation dans les playoffs, tu t'es donné au coton, tu perds une game, tu perds quand même la série 2-1 en ce moment, là. Je pense que c'est important d'oublier, c'est important de se présenter aujourd'hui, d'avoir une belle performance de tout le monde, puis d'espérer gagner un match.
C'est quoi ton match le plus crève-cœur que tu as vécu dans ta carrière? Y en a-tu un qui te vient en tête dans toute ta carrière, Gilbert, comme joueur de hockey? Là,
ouais.
Un match où ce que vraiment tu perds, puis tu sens là, un vide immense.
Ouais, ben on a une coupe. Me rappelle un match au Minnesota, un match numéro 7, quand j'étais avec les Blues de Saint-Louis. On menait dans le match, on menait, je pense, 4-3 dans le match, puis Willie Plett avait marqué, il restait quelques minutes au match. Puis finalement, on avait perdu en deuxième période de prolongation. Un but de Steve Payne, je me rappelle très bien. Ça fait mal parce que si on gagnait ce match-là, on s'en allait en finale de conférence contre les Oilers. Une autre année à Détroit, en finale de conférence, c'est 1-1 dans la série. On avait gagné un match à Edmonton, on avait splitté Edmonton, puis on joue le troisième match à Détroit. Marty McSorley avait marqué, je pense qu'il restait une poignée de secondes dans la game pour nous battre. Et le match suivant, en overtime, ça a été Yari Curie qui marque. Fait que, tu sais.
Il n'y a pas aussi la fois que ça vous prenait un point pour accéder aux séries?
Ça, c'est à Pittsburgh. La première année que j'ai joué à Pittsburgh, on arrive à la fin de saison, le match numéro 80. On ne jouait pas 82 games. Dans le temps, on jouait 80 matchs. Puis, ça prenait un point pour accéder aux séries. T'as raison, Tony. Un point. Mais dans le temps, quand tu avais un nul, tu sais, le fameux, tu dis les points, points BS puis le point Bonnie.
Les points de loser.
Les points de loser, là. mais si on annulait le match, tu sais, si on annulait le match, on aurait eu un point. Mais on perd le match en overtime. Puis dans ce temps-là, quand tu perdais le match en overtime, c'était zéro point.
Fait que vous n'avez pas fait les playoffs.
Fait que dans le fond, c'était zéro point. Exactement. On n'a pas fait les playoffs. C'est les Sabres de Buffalo qui nous ont battus. Un but de Huey Krupp. Huey Krupp qui a marqué un gros but quelques années plus tard.
En 96.
Avec l'Avalanche du Colorado pour permettre à l'Avalanche d'éliminer les Panthers de la Floride et gagner la coupe Stanley en Floride.
Hey, ça, là, j'ai 5 ans, Gilbert. En 96,
ouais.
Le match numéro 4 contre les Panthers. Moi, évidemment, mon père, c'est un partisan des Nordiques. C'est l'année suivante au Colorado. Puis on a continué de suivre l'après-Nordique avec l'Avalanche. Puis moi, je me souviens très, très bien, je regardais le match avec mon père, puis après deux périodes de jeu, j'étais allé me coucher, parce que j'avais 5 ans, et je te le promets, si l'Avalanche gagne, je vais venir te réveiller. Mon père était venu me réveiller, puis on avait célébré la Coupe des Nordiques au Colorado. Des souvenirs mémorables.
Johnny, t'as-tu fâché ou t'as de bonne humeur ou il y avait des mixed emotions, comme on dit?
Sentiments partagés. Il faudrait lui demander là, comment est-ce qu'il avait réagi à ça. T'es content d'un côté, mais de l'autre, c'était extrêmement crève-cœur.
Parce que moi, je me rappelle très bien des... on avait interviewé, tu sais comment est-ce que c'est, là, on veut faire tout le champ du dramatique et tout ça par la suite, puis le lendemain, on s'était rendu à Québec, ou le surlendemain, on s'était rendu à Québec, les caméras de télévision, les nouvelles et tout ça, puis on avait interviewé René Lavigueur et René Lacasse.
C'est qui ça?
Ça, c'est les deux soigneurs, les deux trainers. René Lavigueur et René Lacasse, c'est les deux gars qui s'occupaient de l'équipement avec les Nordiques quand moi, j'étais là.
Okay.
Des bons gars. C'est des bons gars qui étaient là depuis le début des Nordiques dans la Ligue nationale de hockey. Là. René Lacasse était probablement dans quasiment 60 ans rendu là, peut-être. Là. René Lavigueur était un petit peu plus jeune, mais les gars pleuraient et tout ça parce qu'eux, ils ont raté... T'sais, ils ont travaillé toute leur vie pour les Nordiques de Québec, mais ils ont fait la job. Quand on est parti du côté du Colorado, on a décidé, vous autres, là,
on vous garde pas.
Vous restez ici. Vous restez ici, on vous amène pas, on va engager des gars là-bas, les gars locaux là-bas. Fuck la loyauté. Puis je me rappelle très, très bien de ces scènes-là. Là, c'était vraiment, vraiment touchant. Là. Tu travailles toute ta vie pour un club. Le club déménage, tu travailles pour ça tout le temps, puis le club s'en va gagner à Coupe Stanley. Là, puis toi, t'as même pas été capable de les accompagner, de participer. Ça avait été vraiment crève-cœur ouais. pour ces gars-là.
Salutations aux gens du 100.9 qui nous écoutent. Il y a tous les amateurs des Nordiques un peu partout qui sont branchés sur les ondes de BPM Sport via autant les ondes radio que sur le YouTube.
Regardez vitement là, sur notre messagerie texte. Beaucoup de gens sont restés debout pour les 18 manches.
Wow! Hey, chapeau à vous.
Vous avez eu une très courte nuit.
Chapeau à vous. Honnêtement, je vous lève mon chapeau. On va reparler de baseball, évidemment, dans notre segment habituel dans le 6h45 parce qu'il y a plusieurs sujets qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Je veux vous amener sur la prise controversée à Dalton Varsho qui a fait en sorte que Bichette a été retiré au premier. Après ça, je veux vous amener sur George Springer qui a été blessé. Je veux vous amener sur différentes décisions dans le match. L'erreur de Tommy Edman. Il y a plein d'autres sujets. On va tout faire ça dans une demi-heure. Et comme à notre habitude, on va recevoir Mark Griffin à 8h30 à l'émission. Ah oui, ce sera un classique. On va s'en souvenir longtemps de ce match. C'est terminé en 18e manche, une victoire de 6-5 des Dodgers, propulsée par un circuit de Freddie Freeman, concédé par Brandon Little.
Bon call de Joe Davis du réseau Fox hier, que vous venez d'entendre.
Ah, on aurait bien aimé mettre TVA Sport, mais pour être honnête, à un moment donné, c'est qu'il n'était pas disponible l'extrait. Je veux dire, je comprends très bien la réalité pour l'avoir fait la job, là. À un moment donné, c'est que tu dis, ça vaut-tu la peine de garder un employé en poste jusqu'à 3h du matin pour sortir un vidéo? Fait que là, tu sais, je comprends le rapport coût-bénéfice. Là. Fait que c'est la raison pour laquelle qu'on l'a en anglais ce matin. Mais honnêtement, quelle performance de Shohei Ohtani. 2 circuits, 2 doubles, 5 buts sur balle, 9 fois sur les sentiers
4
hier.
4 fois intentionnel.
Oui, c'est exact. Moi, j'ai un petit peu de difficulté avec le lancer de Seranthony Dominguez qui était en plein cœur du marbre alors qu'on mène 5-4 en 7e manche. Tu sais, je comprends là, que tu veux l'affronter. Il n'y a personne sur les sentiers, mais ça allait bien quand même. Mookie Betts n'avait pas un gros match. Ohtani est en feu.
Moi, ce qu'on dit ça en anglais, pitch around.
Pitch
gars.
Around, oui.
Pitch around.
Lance autour.
Envoie ça au genou, coin extérieur, en bas. Tu sais, en dedans. Même en dedans, il est dangereux. Puis il golfe la balle souvent. Mais en même temps, tu n'envoies pas une balle comme ça en plein milieu de la plate.
Puis sais-tu qu'est-ce qui est un avantage
ça.
Aussi de lancer autour de la zone? L'arbitre hier, il avait une zone des prises quand même assez erratique. C'est pas la première fois qu'on voit ça depuis le début des séries. Là.
Épouvantable.
Mais hier, malheureusement, ça a un impact majeur. Vous avez peut-être vu la séquence, c'est arrivé très très tôt. Varsho est au marbre, 3 balles une prise, très
Bichette
important.
Au premier but.
3 balles une prise et Bichette est au premier. La balle était à peu près un pouce et demi peut-être.
Ah, plus que ça. Un beau 3 pouces en haut de la zone des prises, selon moi.
C'est
là.
Clairement une balle.
Ah ouais.
Et non seulement c'est clairement une balle, l'appel de l'officiel au marbre arrive de façon très tardive.
Ouais.
Et là, ça fait en sorte que Varsho pense que c'est un but sur balle, se dirige vers le premier.
Laisse aller son bâton, commence à s'en aller vers le premier but, puis Bichette s'en va vers le 2.
Et là, finalement, non, on appelle la prise, donc Bichette devient un coureur...
In between.
Il est coincé, finalement, il se fait retirer. Ça coûte un point parce que les Jays, là-dessus, on a frappé des coups sûrs par la suite. Vivement la reprise, vivement les contestations de prise et de balle qui vont arriver dès l'année prochaine dans le baseball majeur.
Ouais, puis il est plus que temps parce que là, je trouve qu'on régresse plutôt qu'avancer. Dans des matchs aussi cruciaux que ceux de la série mondiale, des appels comme ça, ça peut pas arriver. Et hier, ça a coûté un point aux Blue Jays. En fait, hier, là, ils ont laissé 2 points là, flagrants sur la table qui n'ont pas marqué pendant le match. Ça a eu un effet très important sur le cours du match. On aurait peut-être assisté à un scénario différent hier. Je sais qu'avec DC, on va jusqu'à Paris, là. Mais hier, ça coûtait très, très cher aux Blue Jays. Dans un résultat comme celui-là, qui se termine en 18e manche, non seulement t'aurais pu gagner le match en manche régulière, mais en plus, t'aurais pas eu à jouer 9 manches supplémentaires puis user tes lanceurs. Alors, ça a un impact très, très important sur la suite des choses. Hier, sérieusement, cet appel-là, ça ne peut pas arriver dans un match aussi important.
Tu sais, puis je comprends les gens qui disent « Ah, mais Bichette, c'est à lui être conscient, puis... » Le Bichette, il a des yeux, puis il le sait que la balle est haute, puis Varsho s'en vient vers lui. Lui, il prend pour acquis que, puis il se déplace
surtout
vers le deuxième.
Surtout que l'arbitre bouge pas, Tony.
Exact.
L'arbitre bouge pas pour quasiment une couple de secondes, là. L'arbitre bouge pas, après ça, il décide « Oh, strike. » Ah, ouais, fait que l'autre s'en allait, il marchait vers le deuxième but, Bichette.
Ah ouais.
Là, des pognés entre les deux, là, qu'est-ce que tu veux que tu fasses?
Plusieurs autres trucs qui ont retenu mon attention, messieurs. George Springer a quitté la rencontre après un élan, semblait se prendre le bas du dos.
Côté droit. Les obliques, côté, ouais.
Ça, c'est pas bon. Hein. On le sait qu'il est magané, Springer. On a tous vu la rapide qu'il a reçue sur le genou. On le sait qu'il a reçu un tir aussi au poignet un peu plus tôt dans la série. Hier, c'est son élan. Il ne joue déjà pas en défensive. Il est déjà un frappeur désigné. Si Springer perd, tombe au combat, ça va commencer à faire mal.
Ouais, et ça se ressemble beaucoup à une blessure à l'oblique.
Ouais.
Et c'est le côté, le bas du dos. Cette année, ça a coûté très très cher aux Red Sox de Boston, une blessure comme ça. Roman Anthony s'est blessé sur un élan qui ressemble énormément à celui de George Springer hier. Ça a coûté 3 mois, il n'a jamais pu rejouer.
Mm-hmm.
Alors ça pourrait être très sérieux, la blessure de Springer, à sa réaction. Ben, d'abord, je pense qu'il est déjà beaucoup éclopé. On parle de blessures, là, de multiples blessures à George Springer. C'est pas pour rien qu'il ne prend plus sa position au champ extérieur et plus capable de jouer. Et là, ben, on se fie sur lui pour le bâton. Mais là, en plus, là, vraiment, ça ressemble à une élongation musculaire sévère hier. C'est vraiment pas bon signe pour Springer. C'est tellement un joueur important pour les Blue Jays. Je vous apprendrai rien. S'il est pas là à partir de ce soir, ça va être compliqué encore plus.
Tu mettras pas la tête dans le sable. Là. Une coupe de piqûres avant le match. Tu n'as pas le choix. Là. Il faut y jouer avec de la douleur. C'est une évidence.
Mais en même temps, j'ai déjà eu ça, moi, des blessures-là. Puis c'est au hockey. Puis quand tu lances, puis quand tu... Les autres, ils frappent.
Les autres, s'élancent de toutes leurs forces. Ben
oui, c'est sûr que ça doit faire mal au coton. Là.
C'est clair.
Dépendamment de la gravité, là. C'est juste mineur. Mais ça peut être, c'est sûr que ça peut être traité. Là. Une piqûre, t'as raison. Là. C'est rendu là, t'es dans World Series. Là. Il te reste peut-être juste 2 games. Là. Fait que,
Je pense que c'est Mike Napoli, il y a plusieurs années, qui s'était viré une cheville mal sale. Puis écoute... Petite piqueur, puis on continue. Là. On sent plus le pied, puis on avance. Là. Malheureusement, c'est la réalité du sport professionnel.
C'est Kurt Schilling qui s'est fait
opérer à
cheville.
Exact.
Le Red Sox.
Ah oui, lui, c'était de la boucherie, là, sa cheville. Là. Ouais. Pourtant, il avait été dominant contre les Yankees de New York. Les gars, parlant de lanceurs, je vous amener sur Clayton Kershaw. Beau moment pour Kershaw.
Ouais.
Il en est sur ses derniers 1000. C'est connu, il a déjà annoncé que ce sera sa dernière saison dans le baseball professionnel. On n'a pas nécessairement de plan pour l'utiliser, surtout avec la rotation qu'on a du côté des Dodgers. Mais là, hier, dans une situation critique, avec les buts remplis, il s'amène pour faire face à Nathan Lucas et il force Lucas à se compromettre dans un faible roulant, ce qui aurait dû être un but sur balle et provoquer un point du côté de Toronto, mais Lucas s'élance et on va le retirer. Un beau moment quand même pour un joueur qui s'en va directement au Temple de la Renommée sans aucun
problème. Première année d'éligibilité, Clayton Kershaw s'en va au Temple. Ça, c'est acquis, c'est canné, c'est réglé. Dans quelques années, il s'en va là. Une belle scène parce que Kershaw n'avait pas lancé
la
dans les séries. On l'amène pour un frappeur, un gaucher qu'il parvient à retirer. 3 balles, 2 prises le compte. La balle est trop basse. Lucas s'élance. C'est un faible roulant. Kershaw s'en sort et célèbre. C'est peut-être la dernière présence en carrière de Clayton Kershaw qui a déjà annoncé sa retraite.
Mm-hmm.
Sa femme pleura chaud de larmes. Sandy Koufax a été pris également par les caméras de Fox hier. Un beau moment. Si c'est le chant du cygne pour Clayton Kershaw, t'es aussi bien que ça se termine de même, avec un moment important où tu sors ton équipe d'impasse plutôt là, que de se faire malmener. Là, si Lucas avait frappé en lieu sûr, les Blue Jays auraient probablement gagné le match. Mm. Et qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui? Ouais, la manche de trop pour Clayton Kershaw.
À l'image de sa carrière.
Et voilà.
Malheureusement, c'est ça qu'on aurait dit.
Ça a jamais été fameux là, pour Kershaw.
Parlant de chant du cygne, c'était peut-être la dernière apparition au Monticule pour Max Scherzer aussi.
Lui, il était solide.
Je l'ai trouvé bon. Écoute,
faites une coupe d'erreur, là, on s'entend, le hanging curveball à Hernandez, puis Shohei Ohtani, tu le lances à l'intérieur, il aime ça.
Mais Ohtani, le problème, c'est pas le lancer en tant que tel. Moi, c'est la répétition. C'est qu'il l'a essayé 2-3 fois, puis il a réussi à le déjouer. Il s'est dit, je vais y en passer un autre.
Sa première présence, il a frappé un double le long de la ligne du premier but avec une balle à l'intérieur, comme ça, il l'a golfé.
Exact. Il était une balle un peu plus basse, par contre, à ce moment-là.
Il aime ça à l'intérieur, il tourne, puis il est tellement fort, il est capable de propulser la balle loin. Mais de toute façon, regarde, il a frappé un coup de circuit qu'il a lancé en plein centre du marbre. Tu vas le lancer à l'extérieur, il va pousser au champ là. Il frappe où, n'importe où.
Exact. Si vous êtes un gros fan de baseball, sachez qu'on avait adressé le sujet déjà en ouverture à 6h. Fait qu'on a comme complété avec les autres sujets qu'on n'avait pas touchés. Si vous voulez un résumé plus complet, je vous invite à aller sur YouTube. Vous pouvez reculer et écouter le début de l'émission. Sinon, restez avec nous dans à peu près 1h30. On va s'entretenir avec Marc Griffin pour revenir en détail.
Est-ce que Marc a veillé jusqu'à la fin du match?
C'est sûr.
C'est vrai?
Je suis sûr que oui.
Ben d'abord, nous autres, on n'est pas des vrais parce que je me suis endormi.
Bon, c'est parce que Matt peut se lever à 7h30, 8h, lui. Demain, on se lève à 3h30.
Ouais, mais je dirais que plusieurs auditeurs qui ont fait le sacrifice hier de rester debout.
Puis demain, je te rappelle qu'on se lève à 2h45.
Ouais.
Juste te le rappeler, là.
Pour regarder la game du Kraken contre le
Canadien Kraken.
Ah, parce qu'on ne saura pas le score, là.
Non.
Non, on ferme nos téléphones, Tony.
À moins que je fasse une gaffe encore comme la semaine passée. Tout est possible dans mon cas.
Téléphone, lui.
T'en souviens pas? Il l'a compté la semaine passée.
Pas fort.
Ben, ferme-le!
Ben ouais, mais ferme-le. Oui, je sais, ben, c'est, oui.
On n'avait pas de téléphone dans le temps, puis on vivait pareil.
Ben, c'est mon réveil matin, donc non, je peux pas le
faire. T'as pas de cadran chez vous, toi?
Pas rien, ça. On a ça dans notre téléphone.
Ouais, j'avoue que j'ai bien un cadran physique.
Moi, je
toi, tu te réveilles avec un cadran physique?
OK.
Que Diane s'assure de placer avant qu'il fasse de dos.
Ça, là, ça reste en cuisine. C'est vraiment dans la chambre à coucher, ça. Dans la cuisine, le téléphone. Pas besoin de ça dans la chambre à coucher.
S'il y a une urgence, Gilbert. Attends, Catherine appelle ou Jonathan.
Il sonnera dans la cuisine, il va l'entendre. Mais on va au toit. Une urgence, à côté du lit. Une urgence, c'est quoi l'urgence? Ben, arrête, là. Arrêtez,
c'est un outil.
Un quoi?
Ben, c'est un outil, si jamais quelqu'un veut te rejoindre.
Moi, un outil, c'est un wrench, un Westcott, puis un box. Moi, un outil, c'est pas ça. Moi, ça, c'est... C'est pratique, mais c'est gossant aussi. Là.
Mais j'aille pas ta mentalité quand même.
Non,
je
l'admets. Ça me défait très bien.
Moi, quand je l'ai traversé la rue, puis il y a des chars qui passent, puis ils sont là.
T'as raison.
T'as tout à fait raison.
Je peux pas argumenter ça.
Malheureusement, notre prochain invité, il est souvent sur son téléphone. Parce que si tu veux être informateur dans la Ligue nationale de hockey...
Mais ça, c'est sa job!
Dirais-tu que c'est son outil?
C'est son outil de travail.
Et voilà.
Absolument.
On parle à Renaud Lavoie dans 2 minutes.
Absolument.